L'infobésité, un risque pour l'esprit critique. Une émission créée par les étudiants de la web radio 13e Monde de l'Université Sorbonne Paris Nord à Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour notre émission spéciale, l'infobésité, un risque pour l'esprit critique, créée par les étudiants de la web radio 13e Monde de l'Université Sorbonne Paris Nord. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Spotify pour découvrir l'ensemble de nos podcasts, ainsi qu'à notre compte Instagram, @13emonde, pour suivre notre actualité. Je me présente, je suis Pielle et je vais animer cette émission en compagnie de mes camarades. Nous consommons tous les médias, que ce soit la télé, les journaux papier ou numériques, ou encore les réseaux sociaux. Ils sont partout, tout le temps, et on sait ce qui se passe de part et d'autre du globe. Mais avec cela vient l'infobésité. Mais l'infobésité, qu'est-ce que c'est ? On définit ça par la surcharge d'informations auxquelles un individu fait face et la difficulté à consulter, traiter, trier et assimiler ce volume excessif d'informations. Cette notion est évoquée également sous l'appellation de nuage informationnel par le sociologue Edgar Morin. Cette notion peut s'appliquer aux médias comme au travail d'entreprise ou encore l'information continue. Et donc, des sujets peuvent parfois passer à la trappe ou alors être déformés. Et on aurait tendance à dire que cela existe depuis les réseaux sociaux, mais ça existe depuis bien longtemps. Les réseaux sociaux viennent juste accentuer ce phénomène. Mais du coup, l'infobésité, ça nous fait tomber facilement dans le complot ou les fake news. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu passer sur Twitter des milliers de tweets qui disaient tout et son contraire sur l'affaire Epstein. Par exemple, beaucoup de débats ou de rumeurs sur qui est présent sur les listes et sur les documents qui ont été révélés. Donc à ce stade, on ne sait plus différencier le vrai du faux. Et c'est bien là le danger pour l'esprit critique. Parce que si vous ne faites pas le minimum de recherche pour vous informer sur les sujets, on peut facilement tomber dans le panneau des fake news. Au cours de cette émission, on va accueillir Mathis, qui nous fera une courte chronique sur le lien entre l'infobésité et la nécropolitique, suivie d'une interview avec Sofiane, notre camarade et journaliste. Nous poursuivrons cette émission avec une revue de presse sur la commission d'enquête sur le service audiovisuel public qui dure maintenant depuis 4 mois. Noé animera une petite pause culturelle sur le dernier album de Sam Quilly, Jawbreaker, un album mélangeant sonorités techno et pop. Ulysse prendra le micro pour interviewer Anae et Selman pour avoir un court témoignage de leur retour d'Erasmus à Lisbonne. David nous présentera par la suite une chronique définissant l'expression de fenêtre d'Overton et l'impact de l'infobésité sur celle-ci. Puis, pour clôturer l'émission, Kian et Alix nous conseilleront sur les réflexes à adopter lorsque l'on consulte l'actualité. Alors Mathis, dis-nous quel est le lien entre l'infobésité et la nécropolitique ?
Donc, dans cette surabondance d'informations, elle peut devenir dangereuse dans le sens où on risque de devenir insensible aux horreurs du monde. C'est étroitement lié à un concept qui est notamment développé par Achille Mbembe, historien et politologue camerounais, qu'on appelle la nécropolitique. Il nous dit que l'expression ultime de la souveraineté réside largement dans le pouvoir et la capacité de dire qui pourra vivre et qui doit mourir. En gros, la nécropolitique désigne une sorte d'anesthésie des populations opprimées face à la mort physique ou sociale ou à la destruction lente de leur groupe social par habitude de voir cela. C'est également possible de voir cela pour les peuples non opprimés qui vont être moins choqués de ces morts et donc normaliser la chose par habitude. C'est ce qu'on retrouve donc en France, par exemple, où on prend beaucoup plus de distance à cause de la masse d'informations. On peut également constater le degré de choc variable que provoquent les conflits actuels dans la sphère médiatique et intime française. Le conflit en Ukraine est présenté comme beaucoup plus choquant et alarmant et beaucoup plus présent médiatiquement que le reste du monde. Tout ça pour dire que le moindre drone qui explose en Ukraine peut faire la une des journaux. Et pour le Soudan, par exemple, il faut qu'il se passe des drames tellement inhumains qu'ils ne peuvent pas être passés sous silence, sinon on en parle peu ou pas. On va préférer faire un reportage sur les 10 plus beaux paysages de la Bretagne ou sur une brocante annulée au fin fond de la diagonale du vide. Nous allons donc maintenant passer à une session de questions-réponses avec un camarade et aussi journaliste, Sofiane Elbali. Il a été journaliste dans les différents médias internationaux tels que Al Jazeera ou TRT Arabie. Donc bonjour Sofiane.
Bonjour Mathis.
Donc on constate que dans les médias occidentaux, on met plus l'accent sur l'Ukraine que sur les autres conflits. Mais qu'en est-il des médias arabophones ?
Enfin, en réalité, de nombreux enjeux déterminent le processus de sélection des sujets dans les agendas des médias internationaux, y compris les médias arabophones. À cet égard, et selon moi, il y a deux enjeux principaux. Le premier concerne l'importance géopolitique du sujet pour l'entité propriétaire du média ou pour le public à quel s'adresse. Le second tient au rôle que ces chaînes arabophones cherchent à jouer sur le marché international de l'information. Compte tenu de l'objectif même de leur création, c'est contrebalancer l'hégémonie des agences de presse internationales détenues par les Occidentaux et produire et traiter l'information issue du tiers-monde selon une perspective différente. Ainsi, par exemple, et comme tu l'as souligné, la guerre en Ukraine occupait une place beaucoup importante dans les agendas des médias arabophones durant les premiers mois. Cette présence s'est ensuite estompée à mesure que le sujet a été médiatiquement consommé, avant de presque disparaître avec l'éclatement de la guerre en Soudan d'abord et puis de la guerre à Gaza. Ces deux conflits revêtent une importance plus grande pour le public arabe comparativement à la guerre en Ukraine qui constitue avant tout une menace sécuritaire majeure pour l'Europe. Et ici, je souhaiterais attirer l'attention sur un autre point, c'est ce qui s'est produit à Gaza. Par son extrême violence, a éclipsé même des questions qui touchent strictement des peuples arabes. Mais j'ai dans la tête maintenant les questions des élections présidentielles en Égypte, qui étaient marquées aussi par de nombreuses irrégularités et d'une forte répression de l'opposition. Les médias arabes ne l'ont pas traité, ils ont traité plus la guerre de Gaza. Du coup, c'est ça.
Mais face à cette masse d'informations qui n'a de cesse de nous insensibiliser, quelles techniques, quelles stratégies les journalistes peuvent-ils mettre en place afin de continuer d'interpeller la population ?
Dans cette question, ce que j'ai remarqué, c'est que pendant les premières semaines de l'éclatement de la guerre à Gaza, pour les médias internationaux, et dans ce moment-là, j'ai bossé dans la newsroom de la chaîne turque, la TRT Arabie, c'était nous les journalistes qui filtrent les images et essayer de trouver une image moins cruelle de ce qui s'est passé et pour la publier. Et du coup, les journalistes à Gaza, pour mieux, c'est pas choquer, mais pour interpeller cette conscience humaine, ils ont publié plus des images plus cruelles, plus choquantes, pour circuler ce message, que montrer le visage de la cruauté qu'ils ont vécu pendant la guerre. Et c'était ça la technique qu'ils ont utilisée. Ils ont parlé de ça, ils n'ont pas dissimulé. Par exemple, je donne l'exemple de Mathias Zaïza, le journaliste palestinien qui était présent en plein de plateaux, soit télé, soit des podcasts. Il a parlé, il dit on a fait ça pour donner l'image de la cruauté qu'on a vécue, c'est ça.
Mais du coup, au final, est-ce que les journalistes ne risquent-ils pas de confondre leur rôle avec celui de lanceur d'alerte ou de militant à force de vouloir interpeller ?
Par exemple, laisse-nous parler un peu de cet exemple de Mouatias Zaïza et l'exemple de la guerre à Gaza. En premier temps, Israël, il a interdit l'accès des journalistes internationaux à Gaza. Et du coup, il n'y avait que les journalistes palestiniens gazaouis qui filment et qui envoient les images et les informations aux agences de presse et des médias internationaux. Ils étaient les seules sources et ils étaient visés pour ça. Et du coup, à ce moment-là, le journaliste gazaoui, il est en même temps journaliste et en même temps victime de cette guerre. Et du coup, je pense pas qu'on peut différencier les deux casquettes. Le journaliste, en fin de compte, c'est un être humain. Il est là face à sa réalité qui lui impose ses conditions. En fin de compte, je pense que soit Mouatias Zaïza, soit El Dahdouh, soit ces journalistes palestiniens, ils ont aimé de vivre par exemple à Hawaï sur les côtes ou bien sur les côtes de Bahamas. Ils vont pas faire ça, ils vont pas publier des photos comme ça. Oui.
Merci. Donc, il faut être conscient en tant qu'auditeur que le journaliste peut adopter plusieurs casquettes, comme celle de militant ou de lanceur d'alerte, même inconsciemment, parce qu'en soi, on est tous humains. Et donc, une dernière question, est-ce que ces techniques qui sont là pour interpeller sont-elles réellement efficaces ?
Ils sont-elles efficaces ? Je dis oui. Et non, en même temps. Enfin, parce que ce que j'ai remarqué en premier temps, dans les premiers jours, première année peut-être, ça nous choque toujours. Mais après, à force que le spectateur était à consommer beaucoup ces images, genre l'impact émotionnel. En fait, j'ai l'impression, j'ai ni les statistiques ni les études, mais en fait, j'ai l'impression, et d'après ce que j'ai discuté avec des collègues journalistes, ou bien ce que j'ai lu aussi dans des blogs, dans des posts, comme ça, on a l'impression que c'est essoufflé un peu. Et je dis, peut-être, j'assume que, en fait, que c'est un contre-effet. On est arrivé à un point où cette technique il a perdu son impact au consommateur.
Merci pour tes réponses. Donc il est tout aussi important de parler, de dénoncer la situation en Ukraine autant qu'en Palestine ou au Congo. Il ne faut surtout pas faire l'erreur de hiérarchiser les douleurs. Néanmoins, on constate juste une inégale représentation de ces conflits dans la sphère médiatique occidentale, mais également dans la sphère médiatique arabophone.
Merci Mathis, merci Sofiane pour cette interview très enrichissante. On va maintenant accueillir sur le plateau Caroline pour nous présenter une revue de presse concernant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui se déroule maintenant depuis 4 mois.
L'infobésité, un risque pour l'esprit critique.
Bonjour Caroline.
Bonjour Étienne. Alors, un autre enjeu concernant l'information, tout aussi préoccupante, mobilise actuellement l'Assemblée nationale. En effet, depuis le 28 octobre 2025, une commission d'enquête a été ouverte concernant l'audiovisuel public. Il est alors question d'enquêter sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de celle-ci. Le but ici est de vérifier s'il n'y a pas un déséquilibre dans les sujets et opinions mis en avant par le service public. Pour ce faire, plusieurs journalistes et acteurs politiques ont été auditionnés, tels que Léa Salamé, Rachida Dati ou encore Laurent Delahousse. Au cours de son avancée, la commission a connu plusieurs incidents et échanges animés. Une altercation a notamment eu lieu entre le rapporteur Charles Alloncle et le président de la commission, Jérémy Patrilétus, ce mercredi 4 février. Dans un article publié le lendemain, le magazine Marianne qualifie la commission de télé-réalité trash et de cours de récréation. Leur avis rejoint ceux de beaucoup. Selon eux, la commission aurait totalement dévié de sa mission initiale en s'attardant davantage sur la forme que sur le fond. D'autres réflexions ont été émises à propos de cette commission, cette fois-ci concernant la portée politique de cette dernière. Pour rappel, l'enquête a été lancée à l'initiative du groupe UDR, Union des droites pour la République, présidé par Éric Ciotti. Pour remettre en contexte, une vidéo dite « volée » d'un déjeuner entre Patrick Cohen de chez Radio France et Thomas Legrand de chez France Inter, avec des cadres du Parti Socialiste, a été diffusée par le journal d'extrême droite L'Incorrect. On peut entendre Thomas Legrand dire « on s'en occupe » à propos de Rachida Dati. Cet extrait a fait polémique. Les journalistes laissent entendre qu'ils défavoriseraient Rachida Dati du Parti des Républicains sur l'antenne du service public censé être neutre. De ce fait, politiquement, deux partis sont en désaccord. D'un côté, les partis de droite qui utilisent la vidéo comme une preuve de la connivence entre le service public et la gauche. Pour eux, l'audiovisuel public ne joue plus son rôle d'impartialité. Côté journaliste et service public, il dénonce une opération de propagande. Patrick Cohen parle de saturation médiatique. Il cite CNews qui a diffusé 853 séquences sur l'affaire en 2 semaines. Récemment, le journal Libération a écrit un article pour rappeler l'importance de l'audiovisuel public et ses fondamentaux, écrivant « Le service public audiovisuel sert à 3 choses, assurer le pluralisme, prendre des risques et garantir la diversité ». Il s'appuie aussi sur le fait que le financement joue un rôle important. Selon eux, privatiser les chaînes ne ferait qu'augmenter des pages de publicité et ne plus permettre à des programmes comme les Jeux Olympiques ou le Téléthon d'être diffusés, car ils requièrent d'être diffusés sans interruption. Des auditions sont encore prévues, dont une le 11 février 2026, interrogeant Samuel Etienne et Hugo Clément. La commission devrait prendre fin.
Merci beaucoup Caroline pour cette revue de presse très détaillée. On va désormais passer à une petite pause culturelle avec Noé.
L'infobésité, un risque pour l'esprit critique.
Bonjour Noé, de quelle album pomme tu vas nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Ipsiel et bonjour à tous. Le nouvel album de Sam Cooley est sorti le 30 janvier et il est fantastique. Joe Breaker va vous laisser bouche bée, bouche cassée même. Sam Cooley a fait le tour du monde en tant que danseuse et désormais chanteuse. Elle compose pour danser et faire danser son public comme des fous. Elle n'a pas composé cet album seule. Marlon Manier a supervisé et conseillé l'Australienne tout au long de cet album qu'il coproduit. On le retrouve d'ailleurs lui aussi et sa guitare frénétique sur la chanson « By My Side ». Casseuse de mâchoire, un album qui développe l'esthétique de Cooley dans une atmosphère plus dansante encore que son prédécesseur Blonde Vénus et aussi plus accessible. Plus accessible, pourquoi ? Un aspect beaucoup plus pop, voire synth-pop que la techno-pop du premier album. Alors ça fait beaucoup de pop, mais rassurez-vous, il y aura de quoi satisfaire tout le monde. Techno, synthwave, pop et fricotant avec le disco, chacun trouvera dans cet univers une raison de se déhancher. Un rythme hypnotique que j'ai découvert le 26 novembre dernier lors de l'ultime concert de La Femme à Bercy, une première partie dont je me souviendrai très longtemps. Elle m'avait surpris en dansant sur scène avec une batte de baseball et sa troupe endiablée, une véritable claque. On écoute tout de suite London Town de Sam Cooley et j'espère vous faire ressentir le coup de sa batte de baseball et vous faire danser jusqu'au bout de la nuit à London Town.
Vous êtes toujours sur Radio Campus. J'espère que cette pause musicale vous aura plu et vous aura donné envie de vous déhancher comme l'a si bien dit Noé. On va dès à présent accueillir Ulysse qui va animer une interview avec Anaï et Selmen sur leur retour d'Erasmus.
Bonjour Ipsiel, alors aujourd'hui donc, on se retrouve donc avec Anae et Selman, étudiants à la Sorbonne Paris Nord, tout juste rentrés d'un Erasmus à Lisbonne. Nous allons voir les raisons les ayant poussés à partir temporairement de la région parisienne, leurs expériences positives et les contraintes vécues sur place, et également les conseils qu'ils pourraient apporter à des jeunes étudiants qui seraient méfiants à l'idée de partir. Donc déjà, on va commencer par le plus simple. Quelles raisons vous ont poussé à vous exiler d'Île-de-France pendant quelques mois ?
Du coup, personnellement, j'ai toujours voulu voyager et améliorer mon anglais. Et bien sûr, le rêve de vivre à l'étranger et donc casser la routine. Et donc, de ce fait, j'ai proposé à mon ami Salman et il a directement accepté de me suivre dans cette aventure. Et bien sûr, outre le fait de voyager, je pense qu'on est dans une licence qui est beaucoup demandée, enfin une filière qui est beaucoup demandée. Et donc, enrichir son dossier avec l'Erasmus, je trouve ça plutôt pas mal.
Bonjour, moi c'est Salman et je suis aussi parti pour les raisons d'améliorer mon anglais parce que dans un cadre scolaire on apprend mais le pratiquer c'est beaucoup plus enrichissant et je suis parti aussi pour les raisons de faire des rencontres, de me dire d'être livré à moi-même dans une autre capitale européenne où à Lisbonne on parle pas la langue, je parlais pas portugais et d'être plus autonome moi-même.
Voilà. Ok, très bien. Donc, les expériences d'Erasmus sont majoritairement positives, donc autant s'occuper du négatif. Quelles difficultés ou contraintes avez-vous rencontrées pendant votre séjour ?
En contrainte, il y a habiter en coloc, parce qu'on ne connaît pas vraiment les gens avec qui on habite au début. Moi, j'ai eu la chance d'habiter pendant cet Erasmus avec Anae, mais on a eu un coloc en plus qui était un Néerlandais et on a eu pas mal d'histoires avec lui parce qu'il était assez sale et il ne nous parlait pas beaucoup. Donc c'était assez compliqué. Et le fait que je ne mange pas de porc et au début, c'était assez compliqué de savoir quoi manger, traduire la langue et puis voilà.
Et du coup, moi personnellement, pour parler de mon expérience, je suis une personne assez anxieuse, donc j'ai eu plusieurs périodes de remise en question. Et je pense que c'est aussi important d'être préparée au mal du pays. Donc je pense que moi, ça a été ma plus grosse contrainte.
Ok, très bien. Alors globalement, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté à tous les deux ?
Je pense que bien sûr, ça nous permet d'être beaucoup plus indépendants. On doit gérer un budget, on se retrouve livré à nous-mêmes et bien sûr d'être ouvert au monde et ça nous permet d'avoir également beaucoup plus d'opportunités de voyager avec des personnes qu'on ne connaissait même pas il y a quelques mois auparavant et ça permet vraiment de créer des liens directement avec les personnes parce que c'est comme si on se crée une deuxième famille finalement dans un autre pays.
Moi ce que ça m'a apporté c'est une confiance de tous les jours si je peux dire ça où peu importe où je suis, je peux me débrouiller par moi-même parce que j'ai été à l'autre bout de l'Europe, tout seul, avec Anae, mais tout seul. Et puis les rencontres, parce que j'ai beaucoup parlé à plusieurs internationaux, dont des Italiens, des Espagnols, des Polonais, même des Allemands. Et du coup, ça m'a permis de mieux comprendre le monde, de connaître les contextes de plein de pays, les cultures de plein de pays, en plus de celles du Portugal. Et c'est quelque chose qui est du coup maintenant ancré en moi et ça fait plaisir.
Ok, super. Donc une expérience globalement enrichissante. Donc si vous aviez un conseil à donner à un étudiant méfiant de partir, que lui direz-vous ?
Premièrement, ce qui m'a fait hésiter de partir au début, c'était l'aspect financier. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'aides. Il y a beaucoup de bourses. On a la bourse Crous, on a la bourse qui aide les boursiers qui partent en Erasmus. Et on a aussi la bourse Erasmus, tout simplement. Moi, ça s'élevait à environ 850 euros par mois, même si au début, on touche 70%. Mais faut quand même budgéter les mois. Faut se dire ce mois-ci, j'ai tel maximum, ce mois-ci, j'ai ça. Et aussi, comme conseil hors financier, c'est s'ouvrir au monde. Parce qu'au début, on a plus tendance à aller vers des pays qui parlent notre langue. Par exemple, au tout début, on parlait à des Français majoritairement. mais sortir de sa zone de confort, aller voir des personnes d'autres pays pour s'ouvrir et internationaliser son groupe.
Moi, du coup, pour rebondir sur ce que dit Salman, je pense qu'il est aussi important de s'écouter, son corps, ses envies. Et chacun vit son Erasmus un peu comme il veut. Et c'est pas grave si on reste chez soi un week-end, histoire de se ressourcer, parce que ça nous prend pas mal d'énergie. Et aussi, le conseil le plus important, c'est de privilégier l'expérience humaine à l'expérience scolaire et pas se renfermer sur les cours, etc. Parce que ça peut être facile aussi de s'enfermer sur soi-même.
Ok, très bien. Alors, j'ai une autre question, c'est le retour au gris parisien après 6 mois sous le soleil portugais peut être dur à accepter. Comment avez-vous vécu ce retour à votre train de vie habituel ?
Bah, les retours, ils sont pas mal compliqués parce qu'on est habitué à un train de vie pendant plusieurs mois. Et revenir à la réalité de tous les jours d'avant l'Erasmus, c'est assez compliqué. Et surtout, c'est les au revoir, parce que à la fin de l'Erasmus, tout le monde part petit à petit. Et les au revoir à l'aéroport, c'est vraiment le plus compliqué, parce qu'on voit ses amis partir et on ne sait pas quand vraiment on va les revoir.
Ouais, je pense que le retour, ça reste vraiment la partie la plus difficile de l'Erasmus, honnêtement. Personnellement, ça fait 10 jours que je suis rentrée et c'est toujours très dur de se réhabituer à tout cet environnement. On vit des choses tellement intenses que le retour, il fait mal. Après, je reste quand même très reconnaissante et c'est vraiment une chance. Donc, c'est assez bateau ce que je vais dire, mais si vous avez l'occasion de partir, il faut vraiment le faire. C'est une très belle expérience.
Très bien. Et pour finir, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez me raconter une anecdote marquante ou un souvenir inoubliable de votre Erasmus ?
Personnellement, ça va être très basique. Les moments les plus marquants, c'est les voyages qu'on a fait en groupe d'amis, avec plusieurs nationalités, notamment des Allemands et Espagnols aussi. On a fait le sud du Portugal, on a fait le Marrakech, on a fait Madère aussi, et c'est vraiment des souvenirs inoubliables.
Moi, comme anecdote et comme souvenir marquant, c'est plus un souvenir de tous les jours où avec du coup un groupe d'amis, on s'était posé chez une amie pour juste manger le soir. Et on s'était dit qu'on allait faire tous dîner, mais en parlant notre propre langue. Du coup, au début, c'était un peu compliqué de se comprendre. Il y a les Polonaises qui criaient, mais on comprenait toujours pas ce qu'elles voulaient dire. Et les Allemands qui aussi criaient, mais qu'on comprenait toujours pas. Et par contre, on se comprenait beaucoup entre Italiens, Espagnols et Français, parce que c'est à peu près la même racine. Et voilà, c'était juste un soir parmi tant d'autres où franchement, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai.
Ok, merci beaucoup pour vos réponses. J'espère que notre entretien éclairera les étudiants et en poussera quelques-uns à oser vivre ce voyage inoubliable dans la vie d'un jeune adulte.
Merci Ulysse et merci Anaë et Salman pour votre témoignage. Si vous hésitez à partir en Erasmus, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos établissements.
L'infobésité, un risque pour l'esprit critique.
On va désormais discuter avec David qui va nous présenter le concept de fenêtre d'Overton. Bonjour David.
Bonjour Ripiel.
Pour commencer, est-ce que tu peux nous définir le concept, s'il te plaît ?
Alors, la fenêtre d'Overton, c'est une fenêtre métaphorique. Le terme a été introduit par Joseph Paul Overton. Elle est aussi appelée en français la fenêtre du discours. Elle englobe en elle toutes les opinions publiques qualifiées d'acceptables sur lesquelles il n'y a pas de tabou. On a par exemple, imaginons, le prix du pass Navigo. C'est un sujet sur lequel on n'est pas tous d'accord, mais on peut en débattre, on peut en parler, il n'y a aucun problème. Ce sujet se trouve parfaitement à l'intérieur de la fenêtre. A l'inverse, si quelqu'un sur un plateau de télévision explique que l'homosexualité devrait être illégale, cette personne sera vite exclue naturellement du discours médiatique. Cette opinion est complètement à l'extérieur de la fenêtre d'Overton. Cette fenêtre, au fil du temps, elle peut se déplacer selon le climat politique de l'espace public. Si je reprends le même exemple, l'homosexualité était illégale il y a encore quelques décennies. C'était donc une chose qui était à l'intérieur de la fenêtre. Mais petit à petit, ça s'est déplacé et maintenant c'est tout à fait à l'extérieur. On remarque beaucoup de tentatives de déplacer cette fenêtre ces derniers temps dans les médias. Par exemple, quand Édouard Philippe, le lundi 8 décembre sur le plateau de LCI, affirme que la colonisation n'est pas un crime, qui est un discours très négationniste et même peut-être d'extrême droite. Ce genre de discours vient déplacer progressivement la fenêtre d'Overton en rendant petit à petit acceptable ce genre d'opinions qui sont très controversé. Le but est que ce discours puisse prendre de plus en plus de place dans l'espace public. Pour être plus précis, ce qui se trouvait hors de la fenêtre, c'est-à-dire des opinions taboues et non acceptables, se retrouve dans celle-ci lorsqu'elle se déplace.
Mais alors, dis-moi quel rôle joue l'infobésité dans son déplacement ?
Bah justement, l'infobésité, ça trouble notre jugement face à l'information en général. Donc les discours qui la déplacent passent souvent très inaperçus. Puisqu'on est submergé par un flot constant d'informations, les plus choquantes les unes que les autres, qui nous empêchent de prendre le temps d'analyser celles-ci et nous anesthésie en quelque sorte face aux opinions controversées. Je pense notamment à Laurent Jacobelli, qui le 22 janvier dernier a proclamé à l'Assemblée nationale haut et fort, je cite, « Les frères musulmans veulent lapider les homosexuels et si vous voulez lapider les homosexuels, votez LFI. »
Mais attends David, c'est super violent ce que tu viens de dire. J'ai jamais entendu parler de ça, c'est trop bizarre.
Bah ouais, c'est pas si étonnant que ça finalement, parce qu'à la même période, les médias étaient submergés par la situation au Venezuela, les actions de la ICE à Minneapolis ou encore même plus récemment, les lunettes de soleil de notre président. Il n'est donc pas surprenant que le discours extrême de Jacobelli soit passé sous les radars.
Si j'ai bien compris, les discours qui étaient jugés non acceptables deviennent petit à petit, donc ils rentrent progressivement dans la fenêtre. Ça veut dire que des discours racistes et homophobes peuvent devenir normales ?
C'est bien possible si on ne fait pas attention, et il faut aussi faire la distinction que ce ne sont pas les opinions qui se déplacent, mais la fenêtre elle-même. Les opinions quant à elles, peu importe leur positionnement politique, restent fixes. Le tout, c'est de rester vigilant et surtout très conscient que cette fenêtre peut être déplacée intentionnellement.
D'accord, merci David. Maintenant, je comprends bien mieux ce que c'est que la fenêtre d'Overton et j'espère que nos auditeurs également. On accueille maintenant Kian et Alix pour nous conseiller sur les réflexes à adopter face à l'infobésité.
L'infobésité, un risque pour l'esprit critique ?
Oh Kian, je te cherchais. T'as pas vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux ?
Non.
C'est un truc de fou, tout le monde en parle. Il y a des photos, il y a des vidéos, ça tourne de partout.
De quoi ?
Bah, Macron, il est gay.
Sérieux ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Bah, c'est dans le top tendance sur Twitter, donc c'est forcément vrai.
Non mais Alix, non. Déjà, t'es étudiante en information communication, tu peux plus te faire avoir sur ça. Et surtout, tu ne peux pas dire ça à l'antenne. Là, ce que tu fais, c'est propager une fake news, ou pire, de la désinformation. C'est-à-dire une information qui est volontairement trompeuse.
Ah, bah je savais pas, c'était une amie de confiance qui a republié le contenu, donc moi je pensais que c'était forcément vrai. Mais du coup, t'as une explication pour plus que je me fasse avoir comme ça ?
C'est pas grave, je t'explique. Aujourd'hui, le marché de l'information, il a totalement changé, il s'est transformé. Avec Internet et surtout depuis plus de 20 ans, on assiste à une démultiplication des sources. Avec les journaux, les radios, les chaînes télé, les réseaux sociaux. Même le rythme de l'information, il est devenu instantané. Avec les chaînes d'information en continu, les tweets toutes les secondes, les notifications sur nos téléphones... Et avec les réseaux sociaux, chacun peut devenir son propre média. Mais le problème, c'est que n'importe qui peut aussi produire de l'information. Cette prolifération constante d'informations à l'ère du numérique, bah, c'est ce qu'on appelle l'infobésité. Et c'est hyper dangereux.
Donc attends, ça veut dire que les tendances sur les réseaux sociaux, les photos et les vidéos qui sont republiées en masse, sont pas forcément vraies ?
En fait, dire c'est en top tendance où il y a des photos, bah, en fait, ça n'a jamais été une preuve.
Mais alors concrètement, comment on fait pour vérifier une information ?
Très bonne question.
Merci, c'est gentil.
En réalité, vérifier une information, c'est surtout une question de réflexe. Du coup, je vais te montrer comment faire étape par étape.
Ok, vas-y, trop cool. Je t'écoute. Okay.
Alors, premièrement, il faut vérifier la source. Qui est-ce qui parle ? D'où vient l'information ? Est-ce que c'est un média qui est reconnu ? Un journaliste ? Une institution ? Ou c'est juste un compte anonyme sur un réseau social ? En fait, ça change tout. Deuxièmement, il faut multiplier les sources. Une info fiable, elle est confirmée par plusieurs médias, pas seulement reprise par des gens qui pensent pareil. On doit se poser des questions simples, du genre qui a écrit cette information, dans quel but, à quelle date et surtout quel est le contexte.
Ok, d'accord. Mais si on a encore un doute, comment être sûr que l'info est vraie ?
On doit utiliser les outils de fact-checking. Il existe plein d'outils accessibles à tous afin de vérifier les faits. Les décodeurs avec Le Monde, Le Vrai du Faux pour France Info, AFP Factuel, Hoaxbuster ou Hoaxkiller, qui sont des moteurs de recherche spécialisés dans les fausses informations. Et elles sont utiles pour vérifier rapidement si une info circule déjà comme étant fausse. Du coup, il faut souvent prendre 2 minutes. C'est souvent suffisant pour éviter de relayer n'importe quoi.
Ok, mais aujourd'hui, avec l'IA, les images, les vidéos, comment on fait pour ne pas se faire avoir ?
Je t'avoue qu'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Avec l'avancée de l'intelligence artificielle, les deepfakes, les images qui sont truquées, les vidéos falsifiées, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc, on se doit d'être de plus en plus vigilant. Et tu sais ce qui est fou, c'est que la majorité des fake news qui fonctionnent sont presque toujours des mauvaises nouvelles. C'est des rumeurs humiliantes, violentes, choquantes. Et là, c'est scientifiquement prouvé. Une étude du MIT qui a étudié les tweets entre 2006 et 2017 montre qu'une fausse information est environ 70% plus susceptible d'être retweetée qu'une vraie info. Parce que plus ça choque, plus ça circule. Et plus c'est sale, plus c'est partagé. Et du coup, ça en dit long sur notre rapport à l'information. On fait circuler le pire parce que ça fait réagir. Et faut le dire franchement, c'est hyper malsain.
C'est clair, et ça fait super peur pour l'avenir.
Ouais, et c'est pour ça qu'il est impératif de vérifier scrupuleusement les informations. Parce qu'à l'ère de l'infobésité, vérifier, douter, croiser ses sources, ce n'est pas être parano, mais c'est être responsable.
J'espère qu'on deviendra effectivement plus responsable et vigilant face à l'information. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à Kian et à Alix de nous avoir présenté ce petit tuto. J'espère qu'il sera utile à tous. Nous arrivons maintenant à terme de notre émission. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis tout au cours de cette émission. J'espère que celle-ci vous aura plu et que vous aurez appris des choses, notamment sur le principe d'infobésité et la fenêtre d'Overton, et que vous serez davantage vigilants face à l'information. Puisque comme nous l'avons vu, l'infobésité peut avoir de grandes répercussions sur notre esprit critique. N'hésitez pas à nous suivre sur Spotify pour écouter nos podcasts et nous suivre sur Instagram, @13e-monde. C'était l'infobésité, un risque pour l'esprit critique, par les étudiants de la Sorbonne Paris Nord. Merci à tous. Je vous laisse sur la chanson « By My Side » de Sam Quilly et Marlon Manet pour faire le plein de bonne humeur.
First man, I got this strange feeling all over, like my life was not moving fast, and the road was so lonely.